un beau témoignage, une belle illustration de ce que je voulais aussi partager avec vous ce matin. C'est vrai qu'on a l'habitude, vous savez, de fêter la naissance de Jésus dans la période qui est un peu la plus sombre de l'année, on pourrait dire, en tout cas dans l'hémisphère nord, que je parle du climat, c'est les journées les plus courtes à cette période de l'année, hein. Pas beaucoup d'ensoleillement. Et même quand le soleil sort, il a du mal à dépasser, en tout cas à Paris ou à Boulogne, les immeubles, hein, la hauteur des immeubles. Et c'est vrai que c'est une période où on sent ce manque un peu de lumière, hein. C'est une période où il fait froid. Plusieurs disaient ce matin, c'est dur en ce moment de se lever le matin, quand il fait noir, quand il fait froid. Nous, on a vécu 6 années à Madagascar, et c'est vrai que à Madagascar, c'est les tropiques, il y a beaucoup de soleil, c'est très très lumineux, et c'est une des choses qui est plus dure pour nous en revenant en France, c'est l'automne ou l'hiver. Ici, voilà, on le ressent, hein, ce manque de lumière. Et je crois que c'est intéressant parce que ça montre que la lumière ou son absence peut avoir un impact sur nos vies, sur notre humeur. Vous savez, la lumière, c'est quelque chose qui est même indispensable à la vie. Il n'y a pas de vie, il n'y aurait pas de vie sur cette terre sans la lumière, sans le soleil. Et le Dieu créateur de l'univers, qui est le Dieu de lumière, nous a créés de telle sorte que nous avons besoin de lumière aussi pour vivre. Et c'est pour ça que la lumière, c'est un symbole fort, un symbole de vie, un symbole de chaleur, un symbole de ce qui est essentiel pour nos vies. Et c'est dans ce sens que la Bible va présenter Dieu comme étant la lumière. La lumière, non seulement celui qui crée la lumière, c'est la première chose qu'il crée au commencement, mais celui qui est la lumière pour nous de cette manière-là, dans le sens qu'il est ce qui est essentiel, qu'il est, sans lui, il n'y a pas de vie, on pourrait dire. Et comme l'illustre ce petit témoignage des anges, il nous arrive des fois de nous habituer à l'obscurité. Comme ces gens dans le bus, ils sont dans le noir, mais personne n'ose dire quoi que ce soit. On se dit, bon, on ne sait pas trop pourquoi, on se pose des questions, mais on s'y habitue. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, celle que nous rappelons à Noël, c'est que le Dieu de lumière s'est fait proche de nous. Il est là, il vient vers nous. Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Cette image de la lumière, elle revient beaucoup dans les récits des évangiles qui racontent la venue de Jésus dans ce monde. Tout à l'heure, en introduction, on a lu les premiers versets de l'évangile de Jean qui parlent de Jésus, la lumière du monde venue dans l'obscurité. Et puis, j'ai lu aussi ce passage de l'évangile de Luc, cette histoire bien connue des bergers qui, la nuit de la naissance de Jésus, sont dans les champs, il fait noir, et là, les anges apparaissent. Environnant de lumière, comme dit le texte, voilà, ils resplendissent de lumière. On peut imaginer ce qui s'est vécu là. Et c'est encore une autre histoire de lumière que j'aimerais partager avec vous ce matin, ou rappeler, en prenant pas mal de liberté, comme vous allez voir. C'est une histoire, si vous voulez la relire à la maison, qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. C'est l'histoire incroyable de mages venus d'Orient, qui, guidés par une étoile, vont venir adorer Jésus. Là, c'est l'histoire d'une étoile plutôt, un autre type de lumière associée à la naissance de Jésus. Alors, on dit souvent que les mages étaient trois et qu'ils s'appelaient Gaspard, Balthazar et Melchior. Mais la Bible ne nous dit pas combien ils étaient. Peut-être étaient-ils deux ou 352, qui sait, hein? Nous ne savons pas non plus leur nom. Alors, pour faciliter le récit, je dirais qu'ils étaient trois. Parce qu'après tout, ils ont apporté trois cadeaux. La myrrhe, l'encens, l'or, trois cadeaux. Alors, on pourrait se dire peut-être probablement qu'ils étaient trois, un cadeau chacun. Et ces trois mages, je les appellerai Gaspard, Balthazar et Gérard, parce que ça rime. À eux trois, ils formaient le GBG, le groupe des, non pas des beaux gosses, mais des bons guides. Leur devise était: vous cherchez le chemin à suivre, nous vous guiderons sur la bonne route. C'était des assoiffés de connaissances. Ils cherchaient sans cesse à découvrir, à fouiller, à creuser, à scruter. Ils maîtrisaient les langues, hein, le grec, l'araméen, le latin, bien entendu, mais aussi l'hébreu, l'ougaritique, le syriaque, l'égyptien, l'éthiopien ancien et bien d'autres. Ils s'intéressaient à toutes les religions. Ils connaissaient les grands textes sacrés, retenaient un peu ce qui leur semblait utile. Mais leur spécialité première, c'était l'astrologie, voir dans les étoiles la destinée de chacun. Ils espéraient percer un peu les secrets de l'histoire en regardant les étoiles. Malgré toutes ces connaissances et ces quêtes de sens incessantes, Gérard restait insatisfait. Il avait beau en savoir toujours plus, ses pensées restaient confuses. Il pensait pouvoir trouver un sens à l'histoire du monde, mais il ne trouvait pas de sens à sa propre histoire. Il avait la tête bien pleine et pourtant il sentait un grand vide à l'intérieur de lui-même. Lui qui était censé éclairer les autres par les lumières de ses connaissances avait l'impression de vivre dans l'obscurité. Une nuit, alors que le GBG était en train de scruter les étoiles à son habitude, nos trois mages firent une découverte lumineuse. Une étoile particulièrement brillante, jamais observée auparavant. Tout de suite, les conjectures flambèrent. Gaspard y vit une conjonction de planètes. Balthazar y vit plutôt une comète. Quant à Gérard, il eut un flash et fila tel une étoile vers la bibliothèque. Il s'était souvenu d'un texte en hébreu qui pourrait l'éclairer sur cette étoile. Une obscure prédiction dite plusieurs siècles auparavant par un certain Balaam et consignée dans le livre des Juifs. Voilà ce que disait la prédiction. Je vois ce qui arrivera, mais ce n'est pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais ce n'est pas pour tout de suite. Une étoile se lève parmi ceux qui sont nés de Jacob. Un chef se lève au milieu du peuple d'Israël. Nombre 24, verset 17. Et là, comme saisi d'une illumination, il fut convaincu que la prophétie s'accomplissait sous ses yeux. N'y tenant plus, il décida d'entreprendre le voyage jusque la Judée pour aller voir de ses yeux ce roi qui venait de naître. Il fallait partir à la recherche de la nouvelle star. Jamais pareille étoile n'avait été observée. Ce devait être un roi vraiment exceptionnel. Alors les autres membres du GBG furent bien moins enflammés par la proposition de Gérard, pas très chaud pour aller faire quelques mois de voyage pour arriver jusque en Judée pour vérifier cette hypothèse un peu saugrenue. Mais bon, après tout, c'était le prix de la recherche, de la science, hein. Et puis si Gérard avait raison, cette étoile pouvaient faire d'eux des stars de l'astrologie. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, ils atterrirent enfin en Judée et tout naturellement, ils fusèrent vers le palais royal du roi Hérode pour voir si un heureux événement n'était pas arrivé. Ils trouvèrent là un roi plutôt mal luné, dépité d'apprendre une telle nouvelle. Heureusement, il y avait aussi quelques spécialistes juifs qui purent orienter ces mages vers Bethléem, lieu de naissance prévu pour le grand roi des Juifs. Arrivés de nuit à Bethléem, ils virent à nouveau l'étoile observée dans leur contrée. Et là, ils trouvèrent dans une humble chaumière Joseph, Marie et leur enfant nouveau-né, le tout jeune enfant, Jésus. Mais quel enfant! Au plus profond de lui-même, Gérard sut que cet enfant n'était pas comme les autres. Alors, ni la maison, ni la petite famille n'avaient rien de bien particulier. En apparence, on avait là une famille ordinaire, dans une chaumière, une maison ordinaire. Mais Gérard avait cette conviction profonde qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Cet enfant qui se tenait en face de lui n'avait en fait rien d'ordinaire. Il provoquait en lui une chaleur intense, une paix profonde, un espoir immense. Oui, c'était plus qu'un simple enfant. C'était le roi des rois, celui face à qui on ne peut que tomber à genoux. Et non pas parce qu'on en aurait peur ou parce qu'on y serait contraint, mais parce qu'à sa vue, en sa présence, tout en nous frémit et nous pousse à l'adoration. Et en cet instant-là, à genoux devant cet enfant, Gérard eut un sentiment profond de plénitude. Il avait trouvé sa raison de vivre, il avait trouvé la paix, il savait qui il était. Il avait trouvé la véritable lumière, celle qui transforme à jamais l'obscurité de sa vie en une éclatante et joyeuse marche vers son Sauveur. Voilà une histoire qui prend beaucoup de liberté par rapport au texte des évangiles, hein, si vous le connaissez. Si vous connaissez cette histoire des mages, voilà, il n'y a pas de Gaspard ou de Gérard nommé dans l'histoire. On ne sait rien sur leur quête de sens à ces mages. On sait juste qu'ils ont trouvé Jésus et qu'ils ont vécu quelque chose. Ils se sont prosternés devant lui, quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que je sais, c'est que, et ce que l'histoire démontre clairement, c'est que depuis 2000 ans, des milliers, peut-être des millions, et peut-être même des milliards d'êtres humains ont été convaincus que ce petit enfant né à Bethléem il y a maintenant plus de 2000 ans est la lumière du monde. C'est ce que confessent les chrétiens depuis 2000 ans et je crois que beaucoup parmi nous ici aussi confessent cela. Et plus qu'une conviction, c'est une expérience très concrète dans nos vies. On pourrait témoigner, je crois, nombreux ici, de ce que Jésus, le Christ, est venu illuminer notre vie, qui est venu cette lumière qui donne sens à nos vies, cette lumière qui vient comme cette lumière essentielle pour nos vies. Il est celui qui resplendit dans l'obscurité de nos nuits, celui qui nous fait chanter, celui qui nous fait crier parfois et même peut-être danser. Et la question ce matin, c'est est-ce que nous laisserons la lumière du Christ embraser nos cœurs? Ou est-ce que, comme on est parfois tenté de le faire, on va chercher d'autres lumières illusoires ou des étincelles peut-être un peu éphémères, des feux de paille, des lumières qui souvent sont bien décevantes? Jésus, c'est la seule lumière qui peut venir illuminer nos vies, non pas pour un instant ou seulement pendant le temps de Noël, mais tous les jours et pour l'éternité. Amen. On va prendre le chant qui dit « Jésus, par la clarté de ton amour, viens, je ne sais plus la suite des paroles, mais viens briller en nous, brille au Jésus ». Prie au Jésus, viens éclairer cette obscurité. J'aimerais qu'on prenne ce chant, non pas simplement comme un chant qu'on a l'habitude de chanter, mais en réponse aussi à cette offre que le Seigneur nous fait, celui qui est, lui, la lumière du monde, qui vient vers nous, de dire oui Seigneur, brille dans ma vie, brille dans ma vie. Ce n'est pas juste une belle parole, quelque chose dont je veux me souvenir, mais viens encore briller au quotidien. Je t'invite juste à prier et puis on pourra chanter ensemble. Seigneur notre Dieu, merci encore parce que tu es cette lumière du monde qui vient donner sens à notre vie. Tu viens l'illuminer, l'éclairer par ta présence, par ta bonté, par ton amour démontré envers nous à Jésus-Christ. Oh Seigneur, viens encore nous aider à cette période de Noël et tous les jours de notre vie à faire de toi cette lumière essentielle pour nos vies, ce feu qui réchauffe nos cœurs au quotidien, Seigneur. Donne-nous de ne pas chercher ailleurs de quoi illuminer nos vies, mais de trouver en toi la seule et véritable lumière. Nous prions vraiment au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, tu me conduis dans ta présence.